Je pense que la dernière fois, nous nous sommes quittés sur des considérations très sérieuses, très graves sur la béatitude des affligés. Je pense que vous voulez revenir sur le fonctionnement, la question du fonctionnement profond de la béatitude des affligés.
Oui, c'est presque le temps là, que nous, nous attaquions ce qui est de plus profond dans cette béatitude-là. Et à ce moment-là, c'est au niveau de son fonctionnement, parce que c'est ça qui va nous permettre non seulement de la comprendre, mais de développer en nous cette grâce de l'amour qui s'appelle « Bienheureux ceux qui pleurent », d'un chemin de bonheur et qui est une béatitude. Et c'est ce qui est le plus profond dans notre vie, parce que finalement, nous atteignons la raison d'être même de vivre dans ce qu'elle peut être régénérée de plus profond, c'est-à-dire l'amour. Mais dans nos blessures, il faut d'abord guérir nos blessures.
Est-ce que je peux vous poser une petite question? Qu'est-ce que ça signifie qu'une béatitude fonctionne ou qu'elle ne fonctionne pas?
Au fond, une béatitude, c'est une puissance qui est dans l'homme, qui est dans chaque homme, et qui est là pour le réaliser. Maintenant, pour le réaliser, il faut qu'elle entre en fonction, il faut qu'elle soit développée, il faut qu'elle entre en croissance pour atteindre son objectif final, qui est au fond la relation d'amour parfaite avec Dieu. Et il y en a comme ça 8 puissances, dont l'une, c'est bienheureux justement ceux qui pleurent, pour que nos blessures se guérissent.
D'accord. Alors, vous continuez sur le fonctionnement de la béatitude.
Alors, oui, j'attaquerai le fonctionnement profond et j'aurai deux témoins, démonstrateurs, si on veut, deux témoins d'aujourd'hui. Des exemples où on voit fonctionner la béatitude. Alors, bienheureux ceux qui pleurent, c'est la béatitude qui fait qu'on est guéri de nos blessures les plus profondes. Alors, quel va être l'agent de cette guérison-là? Pardon. Est-ce que ça va être nous-mêmes? En un sens, oui, en un sens, non. C'est que, en un sens, oui, parce que c'est nous qui allons nous prendre en main pour nous orienter dans nos blessures. Mais nous allons être aidés dans cette orientation-là. Évidemment, d'abord par l'Esprit Saint, puisque c'est lui qui favorise, qui est lui qui croit, qui fait grandir en nous les béatitudes, qui les a déposées en germe. Mais aussi des témoins, c'est-à-dire des sacrements. Mais là, à ce moment-là, je ne parle pas des 7 sacrements qu'on connaît habituellement, mais je parle de personnes qui deviennent des sacrements. Donc, au fond, ce qui permet à cette béatitude d'exister, c'est une personne miséricordieuse qui va être en nous ou qui nous a déjà atteinte.
Quand vous dites sacrement, vous pensez à instruments?
Instruments de Dieu, lieux où par où Dieu agit, qui sont des personnes. Parce qu'il y a 7 sacrements, évidemment, qu'on connaît, qui sont des situations de vie dans notre histoire. Mais il y a fondamentalement d'abord des personnes qui sont les sacrements par qui ces actes sont agis et finalement Dieu lui-même qui agit par ces personnes. Alors j'aimerais qu'on commence tout de suite cette histoire de fonctionnement profond de la béatitude.
D'accord.
Donc, quand on a des béatitudes très profondes de souffrance, on est porté à s'isoler, on est porté à devenir impuissant, à se décourager, à être perdu et finalement des fois même vouloir mourir. Et qu'est-ce qui peut nous en sortir de ça? Bien, c'est un amour qui est en nous, qui a déjà été déposé en nous, déjà, par quelqu'un, ou encore qui est en train d'être déposé actuellement durant ces situations-là, ou quelqu'un qu'on sait qui viendra nous situer dans l'amour ou nous apporter l'amour. Donc, au fond, là, quand on est dans des creux très graves, là, c'est comme si là, les épreuves qui nous arrivent là, nous forcent à aller au fond de nous-mêmes, à aller chercher des ressources d'amour qui ont été déposées là ou qu'ils seront un jour ou qu'ils sont aujourd'hui. Alors au fond, ce qui nous guérit, c'est quelqu'un qui nous a aimés vraiment ou qui nous aime encore ou qui nous aimera et en qui on croit et on espère. Ou encore quand on l'a expérimenté. Donc le témoin, c'est au fond, quelqu'un va nous guérir parce qu'il y a un ministère de guérison, c'est-à-dire qu'il est amoureux de nous autres, d'un amour inconditionnel. Alors quand on est mal pris comme ça, on va en nous chercher cette force. On pourrait prendre une petite comparaison bien simple. Là, si on a déjà été heureux sur une plage en plein soleil, puis s'il fait bien froid au pôle Nord, puis on est en train de geler, on va revivre des situations de soleil pour nous aider à combattre le froid et à s'en sortir. Ou encore, si on est au pôle Nord, puis on est isolé, on pense à nos enfants qui nous attendent à la maison, alors ça peut nous forcer à marcher dans la neige. Mais ça, c'est des exemples. Mais face à des blessures d'amour, c'est encore beaucoup plus profond que le froid ou que des situations physiques. Alors ça, parce que là, c'est des situations psychologiques et ça devient même des situations spirituelles de détresse. Pour donner un exemple de ça, donc, je reprends. le fonctionnement profond de la béatitude de ceux qui pleurent, c'est-à-dire qui peuvent être guéris de leurs blessures, c'est d'engendrer évidemment par ça en eux un ministère pour d'autres, mais avant il faut qu'ils soient guéris eux-mêmes. Et c'est un autre qui viendra les guérir en ayant apporté en eux assez d'amour pour que ces personnes-là aillent chercher en eux de l'amour. Et ensuite, ils vont comme polliniser d'autres personnes souffrantes. Ils vont aller, au fond, les ensemencer de cet amour qui pourra les guérir un jour quand ils seront atteints. Parce que c'est mieux de faire une expérience d'amour avant d'être bien malheureux, c'est bien sûr.
Ce que vous dites, c'est qu'on ne se guérit jamais soi-même.
En fait, là, on vient au monde dans un autre physiquement. On tombe en bas de notre mère, là. Bon. Ensuite, on devient amoureux dans les yeux d'un autre et on se guérit au fond par les yeux d'un autre qui nous a aimés ou qui est en train de nous aimer. Alors finalement, c'est toujours par un autre et pour un autre qu'on existe.
Chers auditeurs, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Galilée. Nous débattons, nous discutons, nous étudions la très grande question des béatitudes avec M. Raymond Truchon. Donc, M. Truchon, je pense que nous reprenons le fonctionnement profond de la béatitude et je pense que vous voulez nous donner des exemples concrets.
Oui, évidemment, d'abord, l'exemple premier, c'est Isaïe 52:13 à 53:12, texte qu'utilise d'ailleurs la liturgie à ce moment-là. C'est le serviteur souffrant. Et aussi, évidemment, le serviteur souffrant qui est une figure de ce que sera exactement Jésus. Parce que, au fond, celui qui nous guérit, c'est Jésus par ses témoins, dans des sacrements, que sont d'abord les personnes et ensuite des actes de l'Église qu'on connaît tous. Alors, reprenant Isaïe, on rappelle simplement que c'est quelqu'un qui endure une souffrance, au fond, pour un autre, et que l'autre, un jour, découvrant la souffrance qu'il a en lui, la découvrant dans un autre, qu'il l'a endurée pour lui par amour, c'est susceptible de le guérir. Pourquoi? Parce que c'est susceptible de prendre conscience de ses propres blessures en voyant les blessures d'un autre, et parce que souffrant soi-même, on peut se reconnaître dans un autre, ça devient comme un psychodrame, ou vice-versa, si déjà on se sent coupable. Alors, prenons deux exemples contemporains. Il y en a un qui c'est Maurice Zundel. Un jour, il y a un prêtre qui porte une femme enceinte en France. Bon, ça peut arriver partout, là. Seulement que c'est Maurice Zundel qui est accusé d'être ça. Alors, on lui dit, bon, ben, t'as fait ça, OK, tu vas t'en aller étudier à Rome. Alors, c'est une pénitence souvent que l'Église trouve, c'est d'envoyer quelqu'un étudier. Alors, par le péché d'un autre, Maurice Zundel va se trouver à faire son doctorat en théologie à Rome avec saint Thomas d'Aquin, les études de saint Thomas d'Aquin.
Attendez, je vous interromps un petit moment. Pourquoi est-ce que vous dites le péché d'un autre?
Parce que c'est pas lui qui l'a fait.
Ah bon, parce que l'histoire ne le dit pas, ça.
Non, mais une historienne de Maurice Zundel raconte que c'est Maurice Zundel qui a pas fait ça, mais elle raconte ce que Maurice Zundel a fait. Alors, c'est quoi qu'a fait Maurice Zundel? Voilà. Voyons un témoin qui va guérir peut-être celui qui pleure pas encore, mais qui peut-être un jour pleurera. Qu'est-ce qu'a fait Maurice Zundel? À place de dire à son évêque, c'est pas moi qui ai fait ça, ou à un autre, là, que je suis pas trop au courant, il a pas dit ça. Il s'est laissé accuser. Exactement comme Jésus s'est laissé accuser d'une chose qu'il n'avait pas faite. Exactement, comme aussi le serviteur souffrant s'est laissé accuser d'une chose qu'il avait
pas
faite.
Il l'a jamais contesté, il a fait mine que c'était lui.
Exactement, il n'a pas parlé. Seulement qu'il a été à la confesse du gars qui l'avait fait. Ça, il faut le faire. Puis là, alors, évidemment, il savait que c'était pas lui. Et il n'a pas dû dire que c'est lui qui l'avait fait. Mais il a fait prendre probablement conscience au prêtre qui l'avait fait. Alors, le prêtre qui l'a fait, j'imagine, a reçu un torrent de grâce parce qu'il a comme été bombardé d'amour parce que Maurice Zundel, lui, a été condamné publiquement avec ça. Ben, publiquement, faut prendre attention, là, mais quand même. Alors, il a été à Rome, il a fait son doctorat en théologie et finalement, quand il est revenu, on n'a même pas encore pris de chance, on l'a envoyé aumônier chez des sœurs contemplatives. Donc, on s'est dit, il va se coucher de bonne heure.
Je vous reprends, quand il est parti à Rome, est-ce qu'il était déjà prêtre?
Bien sûr, il est toujours prêtre, là.
Mais son doctorat en théologie, il ne l'avait pas fait encore.
Là, il va être fait. Après ça, là, il va rencontrer des jeunes, tout ça, puis là, il va être tout un peu désintellectualisé, comme il dit lui-même ce qu'il a appris, et il va devenir un spirituel extraordinaire, parce que moi, je pense que Maurice Zundel, c'est quasiment le Einstein de l'an 2000, c'est terrible, sa puissance. Et ici, je souhaite que beaucoup d'auditeurs s'achètent les livres de Maurice Zundel, à commencer par Silence, Parole de vie. C'est des retraites faites aux sœurs, mais ça cogne un laïc complètement, parce qu'on a toutes des hommes de sœurs au fond. Au fond, on est tous faits pour la contemplation, qu'on chauffe notre char, qu'on fasse n'importe quoi. On est faits pour être habités par un mystère intérieur d'amour.
Pardonnez mon ignorance. Ramenez-nous un petit peu dans le contexte. Maurice Zundel, est-ce que c'était un contemporain?
Oui, il est mort, ça pas très longtemps. Là.
D'accord.
Alors, puis il a écrit beaucoup de livres, là, comme par exemple une étagère de 6 à 8 pieds sur une bibliothèque. Là. Alors maintenant, revenons à ceux qui pleurent. C'est quoi qui se passe là-dedans? C'est qu'un témoin de l'amour va voir la personne qui a eu une grosse épreuve, qui a fait un péché assez important quand même, et que c'est un autre qui est accusé. Et pourtant, par amour, il voit l'ami qui est en devant de lui et qui porte son péché et qui, au fond, lui dit, ben écoute, c'est pas moi qui l'ai fait, mais je t'aime pareil et il n'y a pas de problème. Alors, voilà que ceux qui pleurent, au fond, sont guéris par un autre qui les accepte et qui non seulement les accepte, mais accepte de vivre les conséquences de tout ça. Là. Et regardons, qu'est-ce que ça fait dans le plan divin, ça? Ben, ça fait quelque chose d'extraordinaire. C'est que Maurice Zundel, son chemin est tout tracé par un pécheur et que son chemin va être extraordinaire. Alors, s'il avait choisi lui-même une formation comme ça, ça aurait déjà été génial. Il n'a même pas eu à choisir. Elle lui a été proposée.
Et il a accepté.
Il a accepté. Puis il en est venu un géant du spirituel. Prenons un couple contemporain qui n'est pas mort, qui existe à Sainte-Foy, qui avait une jeune fille. Il y a une dizaine d'années, il y a une jeune fille qui s'est faite descendre par un 12 sur le bord de la route. Puis elle est morte là. Puis elle a même souffert parce que paraît-il qu'elle a été atteinte dans une partie de non immédiatement mortelle. Alors, cette personne-là est morte. C'est une étudiante de l'Université Laval. Et les parents ont passé à la télévision. Écoutez bien ça, il faut le faire. Hein? C'est ça de l'évangile à l'état pur. Il ne faut pas courir ça sur la planète Mars. Ça existe dans un cadre bourgeois, ça existe sur nos chemins, ça. Alors, ce couple-là a passé à la télévision, puis il a dit à la télévision ceci, à peu près, là. Nous aimerions connaître celui qui a fait ça pour lui pardonner. Alors, voyez-vous ça, vous autres. Alors, il souffrait du gars qui avait tué le fils. Il voulait l'alléger, il voulait le guérir, il voulait le pardonner. Ben ça, là, c'est ça, l'Évangile.
Est-ce qu'il y a une suite à cette histoire-là?
Il y a une suite, c'est-à-dire qu'ils viennent d'en reparler dernièrement. Là. Je ne me rappelle pas pourquoi. Quelqu'un me dit qu'il en avait reparlé à la télévision. Mais... un jour, peut-être que le criminel, avec ses sauveurs ou ses guérisseurs ou ses thérapeutes, deviendront de très grands amis. D'ailleurs, je sais qu'il y a une cassette qui circule sur le pardon où, justement, la même chose existe. C'est le criminel est devenu un grand ami des victimes. Et,
dans un autre cas.
Dans un autre cas. Et ce qui est extraordinaire, c'est que des amours comme ça, ça ne peut plus se briser parce que ce qui est pire est arrivé.
Alors, encore faut-il que le responsable développe une confiance innommable.
Oui.
Envers les gens qui lui offrent le pardon, parce qu'ils pourraient s'imaginer qu'il y a des motifs secondaires.
Non. Devant tant de bonté, il n'y a aucun argument qui tient, parce qu'on sait que ce n'est pas de l'argent, on sait que c'est de la gratuité pure. Ces personnes-là pardonnent. Non. Le bien, là, à un tel niveau de profondeur et avec une telle masse de démonstration, là, je crois que c'est là-dedans que se situe fondamentalement le salut du monde. Thank you.
Monsieur Truchon, vous nous donnez des exemples assez touchants du fonctionnement profond de la béatitude, comme vous l'appelez, mais ce ne sont pas des occasions qui sont données à tous les chrétiens, à Monsieur Tout-le-Monde.
C'est-à-dire qu'au fond, on est continuellement appelé à vivre cette manière de vivre, qui est de semer en toutes circonstances. Et évidemment, ça, ce sont des occasions majeures. On a comme des athlètes là, que l'Esprit-Saint a fabriqués, là, comme des géants sur nos routes, là, comme on peut avoir des panneaux là, de 10 pieds par 20 là, pour nous indiquer la direction. Les géants, ces géants-là, évidemment, sont pas trop nombreux. C'est encore heureux parce qu'on verrait plus le paysage, là. Mais au fond, chacun est appelé à vivre ça parce qu'on peut pas vivre 3-4 fins de semaine de suite sans faire un pardon à quelque part. Sans ça, on a des relations superficielles. Maintenant, j'aimerais maintenant démontrer un peu la sagesse de cette béatitude. C'est qu'au fond, là, celui qui pardonne, là, lui-même se libère. C'est qu'il produit encore un effet merveilleux en lui. Parce qu'au fond, quand on pardonne pas, là, on est lié avec celui qu'on haït. Au fond, c'est comme un gardien de prison ou un gardien de prisonnier. Il est obligé d'aller partout où va le prisonnier. Au fond, ils sont attachés tous les deux à la même chaîne, là, comme un chien avec son maître. Là. Des fois, on sait pas lequel qui tire sur l'autre. Là. Alors, au fond, qui mène? Celui qui haït ou celui qui est haï? Les deux sont esclaves. Alors, au fond, quand on pardonne, on se libère soi-même, on guérit un autre, mais en même temps, on produit en nous un surcroît d'énergie, un surcroît d'amour, un approfondissement de notre état qui était déjà heureux parce que, jusqu'à un certain point, parce qu'on n'était pas responsable. Mais là, c'est encore bien pire. Nous devenons responsables du bonheur d'un autre, de sa guérison. Et c'est un peu comme un médecin qui accouche, ou une accoucheuse là, qui accouche un bébé là, ou un être humain nouveau. Quand elle se couche la nuit, elle se dit, il y a un être nouveau, puis ça m'a passé dans les mains, ça. Alors, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu. Alors, donc, celui qui pardonne produit en lui-même aussi un état merveilleux. Et le pardon, ça devient finalement une manière d'être heureux, c'est-à-dire de ne plus être atteint par le mal d'un autre, et même, au contraire, on veut même le détruire, le mal dans l'autre.
C'est le processus d'apprentissage qui est le plus difficile, j'imagine.
Processus d'apprentissage, mais même des enfants de 4 ans sont obligés de se pardonner. Il y a une claque qui va à mauvaise place, puis on est obligé de se pardonner parce que être ennemi, on peut plus jouer ensemble, c'est plus le fun, comme on dit, la partie est finie.
Mais j'allais dire, les grands événements, comme les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, ce sont des exemples frappants, très, très percutants, oui. Mais il y a des petits exemples beaucoup plus simples dans le quotidien oui. Qui sont peut-être moins faciles à discerner.
Facile à discerner, mais au fond, on devrait apprendre à discerner ça. C'est que dès qu'on se chicane, au fond, on a un apprentissage à faire d'un amour plus grand. J'aimerais ici définir le pardon divin et le pardon humain par qui il participe. C'est un acte de Dieu. Pardonner, là, c'est un acte de Dieu qui nous remet dans une situation meilleure qu'avant. Mais à condition de liquider la situation et liquider le problème, autrement dit, ne pas oublier, parce que ce n'est pas oublier, pardonner. Pardonner, on n'oublie pas. On n'oublie pas, Dieu n'oublie rien, d'autres non plus, on n'oublie pas. Se forcer à oublier, c'est stupide. C'est pas ça. On n'oublie pas, c'est qu'on aime encore. Mais on aime plus qu'avant. C'est un peu comme un os qui tosse, là. Quand il reprend, il y a une bosse, puis il est plus fort qu'avant. Il ne recasse pas à la même place, il recasse ailleurs.
Oui.
Alors, une branche d'arbre aussi, c'est le même. Alors, une relation humaine, là, à force de casser, vous m'en avez, elle ne casse plus.
Une brisure qui est réparée est d'autant plus forte.
Elle est plus forte. Puis, à force de comme ça, c'est comme un gars de garage, ça amène bien des chars, il connaît ça, il repart. Son premier, il n'est pas sûr, mais quand ça fait 10, ça amène bien. Alors, à un moment donné, nos relations sont faites, non pas pour rien que des fins de semaine. Il y en a qui restent ensemble trop pour pas trop se connaître, pour pas avoir à chicaner. Au fond, puis libidineux, au fond, il veut une vierge neuve à chaque nuit. Pourquoi? Parce que l'ancien lui rappelle sa mauvaise odeur. Au fond, on devrait tout le temps se régénérer dans nos pardons. Et là, on revoit le Notre Père, là, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons, le comme, là, c'est-à-dire comme toi tu le fais, c'est-à-dire tu nous recrées par nos fautes, tu nous recrées dans nos erreurs, tu nous recrées dans nos fautes. Et à un moment donné, ça devient une manière de vivre, ça. C'est-à-dire qu'on passe pas notre temps à pardonner, là. Un jour, j'avais connu quelqu'un qui passait son temps à me dire, ben, excuse, excuse, excuse. Mais à un moment donné, j'y ai dit, arrête-moi ça, là. C'est plate, là. On va parler d'autres choses. Alors, ceux qui arrivent avec Dieu tout le temps puis dire, excuse, excuse, Dieu, à un moment donné, il devait le dire tanné, dire un instant, là. Bon. On oublie tout ça, là, puis on mange un hot dog ensemble, tu sais, on a du fun.
Et on n'en parle plus.
On n'en parle plus, parce que c'est pas une vie de se pardonner, ça. C'est pas de se pardonner qui est la vie. Se pardonner, c'est pour que la vie continue. Et non seulement qu'elle continue, elle ne continuera jamais comme avant.
Alors, une fois par incident suffit. C'est ça que vous dites?
Quand on se sent coupable et on ne sait même pas pourquoi, là, on est dans un matériel psychiatrique. Là. Alors là, faut quand on ne trouve pas pourquoi on se sent coupable, là, ça commence à être grave. Il faut détruire ça parce que la culpabilité pourrit nos relations. Mais quand on sait pourquoi, bon, on demande pardon et ensuite c'est fini.
Mais c'est vrai que la culpabilité est très répandue. C'est facile de développer un sentiment de culpabilité envers tout
et rien. C'est ce qu'il y a de plus profond, la culpabilité. Il y en a qui sont coupables de marcher sur la rue. Ils fonctionnent. Au fond, ils suivent le long des murs comme une petite souris, comme un erreur qui se promène. Là. Il y en a qui n'ont pas plus un moins fort que ça. Ils sont toujours de travers. Ils se sentent toujours de travers. Ils se sentent toujours coupables. Finalement, ils sont toujours de travers. Mourir de travail. Ben ça pourrit une relation. Ces personnes-là sont incapables d'être aimées, sont incapables d'aimer. Alors, il faut que quand on ne sait pas pourquoi qu'on est coupable, nettoyer ça par des actes de foi et d'amour.
Et probablement incapable de pardonner aussi.
Ben, c'est évident, ça va ensemble. Alors, le comme, justement, vient ça. Parce qu'il faut demeurer dans l'amour pour pardonner. Alors, mais seulement que pour être guéri soi-même, avant de guérir un autre ou de le pardonner, il faut soi-même nettoyer en nous cette saleté, cette blessure, cette culpabilité. Puis si on croit qu'on a fait quelque chose de travers, puis telle action précise, on en demande pardon, puis après ça, on est obligé de ne plus y revenir. On est obligé. C'est plus important encore la foi qu'on ait pardonné que la foi pour être pardonné. Puis en fait, Dieu, là, j'ai hâte qu'on en arrive, parce que là, on est rendu dans ce qu'il y a de plus profond de la béatitude, ceux qui pleurent, mais on va aller plus profond encore en allant dans une autre béatitude, ceux les miséricordieux. Et là, on atteindra le fond du cœur de Dieu et le fond du cœur de l'homme, parce que le fond de la béatitude de ceux qui pleurent, c'est les miséricordieux. Autrement dit, c'est par un miséricordieux qu'on est guéri. Donc, ceux qui pleurent, c'est d'être guéri de ses propres blessures, puis d'être miséricordieux, c'est de guérir un autre de ses blessures.
D'accord. Monsieur Truchon, j'ai quelques petites interventions à vous proposer et je pense que c'est le moment parce que bientôt, nous allons devoir passer à une autre béatitude. Je vous dites que même si un homme actuel ne ressentait aucun mal, le seul fait de regarder les autres hommes et le monde où s'étale un mal immense briserait son bonheur. Fin de la citation. C'est une affirmation qui me paraît tellement pessimiste. Comme vous dites, ensemble, vous dites que le bonheur idéal n'existe pas, que le bonheur aussi, c'est un concept relatif encore. Tout est tellement relatif quand on étudie, quand on discute. Pourquoi est-ce que vous dites qu'un homme ne peut pas être heureux parce que la seule conscience du mal prévient, empêche le bonheur parfait de s'actualiser en lui?
Bon. La réponse est évidemment à cause de l'ordre terrestre dans lequel nous vivons, un monde où le mal existe. Et si soi-même, à un moment donné, on n'est pas atteint profondément par le mal de soi-même, parce qu'on a été guéri, ce qui est la béatitude, mais on est sensible au bonheur des autres, puisque quand on est amoureux, plus on est amoureux, plus on est sensible au bonheur des autres. Alors, quand on est heureux, puis qu'on est insensible au malheur des autres, on est comme le mauvais riche dans une parabole qu'on étudiera peut-être l'an prochain, je ne sais pas, la parabole du mauvais riche. Le mauvais riche, c'est pas parce qu'il est riche qu'il est mauvais, c'est parce qu'il est insensible au malheur d'un autre. Il y a un lépreux à sa porte là, qui a le steak à l'air au soleil, là, les mouches se promènent là-dessus, puis lui, il mange du bon steak en dedans. Là. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça? Là? C'est pas facile de manger un bon steak de même à côté d'un itinérant qui crève. Là. C'est qu'il faut fermer les yeux. Alors, les riches, des fois, ils élèvent des grandes barrières là, pour pas voir les malheureux, pour pas sentir leur malheur. Mais ce bonheur-là, il est jamais profond, parce que le malheureux, ils savent très bien, c'est eux autres qui les font vivre, bien souvent, ces malheureux-là. Alors, le bonheur dont on parle ici dans les Béatitudes, c'est le bonheur de Dieu, c'est le bonheur de l'homme qui est humain. C'est-à-dire qu'il est atteint dans ses fibres les plus profondes. Et les fibres les plus profondes de nous-mêmes sont les fibres d'un autre. Parce que, encore une fois, on vient au monde par un autre et pour un autre.
Monsieur Truchon, vous avez également abordé la fameuse notion de prophète que vous associez à celle de thérapeute. Vous écrivez que celui qui parvient à ne compter que sur Dieu ne peut pas être manipulé par les honneurs, les promesses, les peurs. Il est thérapeute. Il a dépassé le plaisir et la douleur. Fin de la citation. Mais cette phrase, Monsieur Truchon, elle me fait bien plus penser à un saint, un martyr, par exemple, qu'à un chrétien ordinaire.
Oui. D'abord, j'emploierai le mot agapé thérapeute, parce que c'est un thérapeute qui, au fond, est thérapeute à cause de l'amour de Dieu qui est en lui. Alors, ça n'enlève pas la tâche du psychologue. Ça l'inclut, c'est-à-dire que ça inclut ses principes, mais pas nécessairement sa pratique précise, là, professionnelle. Mais ça va plus loin, parce que l'agapé-thérapie recrée l'homme, fait pas seulement lui permettre de retrouver une liberté, elle recrée vraiment sa liberté. Et un converti, c'est un homme nouveau, c'est un homme qui n'a jamais existé comme ça, tel quel. Et même les thérapeutes ou ceux qui ont suivi des thérapies, on peut les reconnaître. Moi, ordinairement, quand ça fait 10 minutes que j'ose quelqu'un qui a suivi une thérapie, je peux quasiment savoir qu'il a suivi une thérapie parce qu'il ne fuit plus, il n'a plus peur.